lundi matin, 28 février. Maxime Hockenson avec vous au show du matin en l'absence de GF. Jeff va être de retour mercredi. Petite absence qui était déjà prévue au calendrier. Tout d'abord, on reçoit aujourd'hui deux invités qui vont venir nous parler d'arbitrage, puis plus spécialement le programme de développement des arbitres, donc le PDA. Jean-François Arsenault, comment ça va?
Ça va bien toi-même?
Ça va bien, merci. On reçoit avec nous un invité. Je te laisse nous le présenter.
Ben oui, j'ai emmené avec moi mon bon ami et mon collègue Simon Blanchette, là, qui est le directeur là, du PDA pour la prochaine année. Fait qu'on voulait venir vous parler là, de bonnes nouvelles en termes d'arbitrage, d'innovation, puis de nos projets parfois un petit peu fous. Fait que Simon, officiellement, là, bienvenue parmi nous.
Ouais, merci messieurs, très content d'être avec vous autres ce matin.
C'est ta première fois au show du matin, je pense, hein?
Yes, appelez ça.
Good, pas trop nerveux?
Non. Je me dis, je peux pas être plus niaiseux que JF, fait que je suis correct.
Oh, ça part fort. Excellent, j'aime ça. Excellent. Écoute, Jeff, si tu peux un peu nous décrire un peu le PDA, puis ce que ça englobe, puis ça s'adresse à qui?
L'idée de base, en fait, là, vient de 2018, si je me souviens bien, lors des championnats provinciaux. Tu sais, les équipes arrivent dans les championnats provinciaux, c'est des équipes déjà formées, les entraîneurs les ont évaluées. Souvent, c'est des clubs originaux, même, tout dépendant des divisions. Côté arbitre, on arrivait avec des suggestions qui provenaient des régions. Les superviseurs sur place connaissaient pas du tout le pedigree des arbitres. Là. C'est-à-dire qu'ils arrivaient devant nous, on les assignait à des matchs, puis on les supervisait, puis on les aimait comme ils étaient. Des fois, on avait de belles surprises. Des fois, malheureusement, on avait des moins bonnes. Alors, on s'est demandé, là, puis quand je dis « on », c'est pas juste au niveau de l'arbitrage, là, ça l'inclut là, le CA de Baseball Québec, Maxime Lamarche qui était en discussion aussi, à savoir comment on peut offrir un meilleur service lors des championnats provinciaux. Alors, l'idée qui est venue, là, c'est de traiter davantage les arbitres, un peu comme des joueurs. C'est-à-dire de leur offrir une préparation, un entraînement, de leur expliquer c'est quoi les attentes pour éventuellement arriver aux championnats provinciaux, arriver à l'happening, puis être capable, d'une part, d'offrir un bon service aux équipes, mais d'autre part, de pouvoir là, observer et de traquer la progression des arbitres tout au long de la saison. Fait que c'est vraiment ça l'idée de base. Puis, mais là, on est rendu à une quatrième saison qui est déjà débutée cette année. Puis, chaque année, on ajoute toujours un petit peu plus à notre offre de formation, et ce, malgré la COVID.
Très bonne idée. Simon, je pense qu'il y a une association aussi avec la Ligue 3A qui va permettre aux arbitres là, de une nouvelle entente, en fait, là, qui va vous permettre d'essayer un peu plus de choses et de superviser un peu plus vos arbitres qui s'adressent au PDA.
Oui, ben en plein ça, dans le fond, avec il y a une restructuration qui se fait présentement au niveau du programme d'excellence. Puis, du côté du PDA, on a toujours été assez ouverts à l'idée d'accueillir le U15 et le U17-3, même le programme du PDA. Fait que, à partir de cette année, là, on a eu la confirmation dans les derniers jours que le PDA, dans le fond, va s'occuper de l'encadrement puis de la supervision là, des différents arbitres on va l'appeler encore le Midget 3A. Là. Fait qu'on va s'occuper de cet encadrement-là, mais il y a un lien qui se fait quand même avec le programme d'excellence, justement, notamment pour l'assignation de parties. Parce que c'est souvent les mêmes arbitres qui se regroupent pour faciliter la logistique puis le booking, parce qu'on le sait qu'on n'a pas une tonne d'arbitres non plus. Il y a une certaine pénurie qui se fait aussi au Québec de ce côté-là. Fait que on a une entente de ce côté-là, puis c'est nous qui s'occupe de l'encadrement.
Excellent. Puis je pense que la formation aussi, Jeff, là, elle va s'échelonner sur un 8 à 9 mois au lieu d'être seulement un mois dans l'année où tu as de la formation, après ça, tu t'en vas arbitrer, puis après ça, ta saison est terminée. Là, je pense qu'il y a un programme qui est plus complet, qui va ressembler un peu plus à un encadrement ABC pour un joueur, mais là, on a l'encadrement ABC, mais pour un arbitre là, qui a le goût qui en mange puis qui en veut plus.
Mais t'as entièrement raison dans ce que t'affirmes, puis tu sais, dans le monde de l'arbitrage, puis tu sais, j'en parlais même la semaine passée avec Tania en disant que on va aller voir ce qui se passe ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde, puis on va tenter d'amener les meilleures pratiques ici. Sauf que dans notre cours, on a d'excellentes pratiques qui sont en place également. Puis tu sais, au niveau du coaching, oui, mais au niveau des joueurs. Fait que notre raisonnement à moi puis Simon, pendant un hiver complet, a été de se demander comment on peut traiter les arbitres un peu comme des joueurs, c'est-à-dire traiter l'arbitrage un peu comme une discipline en elle-même, puis cet encadrement-là, mais passe par plusieurs étapes. C'est d'une part, nous, l'humain derrière l'arbitre nous intéresse. Ça a l'air un petit peu ridicule dit comme ça, vite, mais à un moment donné, l'arbitre qui arrive sur le terrain, qui offre une performance pendant 2 heures, mais il y a un background en arrière, il y a un intérêt envers le baseball. On a certains arbitres qui, c'est un passe-temps pour eux, puis ils vont faire leur match, ils sont contents, ils veulent, ils ont pas réellement d'attachement envers le sport, puis une activité comme une autre. Puis eux autres, peut-être qu'ils sont pas les meilleurs candidats pour le PDA, mais il y en a qui en mangent. Là, il y a des gens qui, comme moi, qui ont frappé 200 toute leur vie, puis qui se sont dit, si je veux atteindre des hauts sommets au baseball, mais faut que je mette un masque puis que j'ai en arrière des joueurs qui sont bons. Fait que pour ces gens-là qui en mangent, qui trippent baseball, bon, c'est dit, on peut leur offrir davantage. Fait que tu sais, formation théorique qui est déjà commencée, on est déjà avec eux depuis le début du mois de février. À part de ça, c'est qu'on a des rencontres individuelles avec les arbitres. Nous, on veut les connaître. On veut savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie. C'est juste pour l'assignation. On parlait du 15U puis du 17U 3A tantôt. Mais tu sais, moi puis Simon, on a des casse-têtes des fois avec des matchs de jour en plein milieu de semaine. Faut qu'on trouve des arbitres qui ont des disponibilités. Fait que quand un arbitre nous dit « Ah, oh, moi, je travaille pas cet été, je veux faire en masse de balles puis gagner un peu ma vie avec ça », mais nous autres, on saute là-dessus, là, comprends-tu? Fait que ça nous intéresse, puis on va chercher du monde de tout âge, de tout horizon, puis tu sais, quand on a un arbitre plus vieux qui dit « Ben moi, je suis directeur des opérations dans ma compagnie, mais on reconnaît un certain leadership chez cet arbitre-là, mais on peut y confier des fois des responsabilités supplémentaires, puis le parrainer avec un plus jeune arbitre qui manque un peu plus de confiance, histoire qu'il serve de mentor. » Fait que toute cette stratégie humaine-là, on est capable de l'amener dans l'arbitrage, puis c'est carrément copié sur ce qui se fait du côté des joueurs, là, ce que vous avez fait notamment les dernières saison avec l'ABC.
Oui, effectivement. Puis faites-vous attention à ça, l'âge de chacun des arbitres. Exemple, vous avez un jeune qui excelle là, de 14 ans. Allez-vous quand même lui demander de faire un peu plus de Bantam 2A, puis oui, avant de monter les échelons? Parce que moi, je me rappelle, j'ai des histoires. On dit souvent, tu as travaillé chez McDonald's, tu as une façon de travailler, tu as une rigueur. Quand on était plus jeune, c'était ça. Mais moi, comme arbitre, ça a été ce qui m'a formé comme être humain, parce que j'en ai mangé de la merde là pendant, puis me faire engueuler quand j'étais arbitre, puis j'avais 16 ans, je faisais du junior 2A. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites attention, ou vous assurez au moins d'avoir un gars plus vieux ou d'un superviseur proche du terrain?
Ben oui, mais vas-y Simon, t'avais de l'air bien parti.
Ouais, ben tu sais, je te dirais, ça va dépendre de l'arbitre. Tu sais, ça va dépendre aussi de la capacité de l'arbitre à réagir. Mais tu sais, l'objectif qu'on veut, oui, c'est l'encadrement. Tu sais, c'est de mettre un plus vieux, quelqu'un qui a avec plus d'expérience. L'âge est un facteur, mais pas seulement ce facteur-là. Là. Ça va dépendre comment l'arbitre réagit. On a des arbitres dans le PDA qui sont très jeunes, puis qui, tu sais, depuis déjà 2-3 ans, font des catégories juniors, seniors, des joueurs plus vieux qui s'en sortent très bien. Fait que ça va vraiment dépendre de comment l'arbitre réagit. Mais oui, le facteur est un âge, mais pas juste l'âge.
Là. OK. JF, combien on a de joueurs dans le PDA? Combien on a d'arbitres dans le PDA?
On va arriver à peu près à 45-50 arbitres pour la prochaine saison. Puis, tu sais, c'est des arbitres de tous âges. Là, tu sais, nous, un arbitre de 14-15 ans qui, au niveau de son association, en mange, il est là tous les soirs, même quand il arbitre pas, il se tient au roll-park avec son stock au cas où il manque quelqu'un, qui vient observer les plus expérimentés, qui veut. Mais nous, c'est qu'on le veut, cet arbitre-là. Là, tu sais, l'anecdote, c'est l'été passé. Simon, je pense que t'étais là, on jasait avec l'ami Stéphane Pietranzio de Gatineau.
Oui.
Qui nous présente un de ses jeunes, un de ses joueurs au sport études. Puis Stéphane, il nous dit à tout bas, il dit, lui, cette valeur qui est pas le talent, parce que j'ai jamais vu une tête de baseball comme ce joueur-là. Sauf que malheureusement, il a plafonné comme joueur, mais c'est une tête. Moi, puis Simon, tout de suite, on a dit, mais Stéphane, présente-nous-le, nous autres, on va le signer. C'est exactement le genre de candidat qu'on veut. Là. Le gars, il en mange. Fait que ça, on va aller chercher, puis on va chercher beaucoup de deuxième carrière. T'sais, moi puis Simon, quand on a imaginé ce programme-là, on voulait toucher d'abord et avant tout des jeunes en bas de 20 ans. Sauf qu'on a comme du monde, des fois, plus vieux que nous, là, dans la quarantaine, dans le début cinquantaine, qui lèvent la main, qui disent « Hey, moi, ce que vous faites, là, c'est que quand je m'investis, je veux m'investir à fond. » Fait que devenir un meilleur arbitre avec un encadrement, avec un... qui tient en compte là, du facteur humain. Là. C'est nous, on ne traite pas les gens en imbéciles, puis on n'est pas l'armée non plus. Fait que ça m'intéresse de m'impliquer avec vous, mais c'est vient temps, puis ces mentors-là qui sont plus vieux, mais on est capable de les matcher des fois, justement, avec des plus jeunes. Puis c'est que la confiance passe pas nécessairement par un superviseur, mais va passer de confrère à confrère. Puis ça, c'est quelque chose de tout à fait génial qu'on a mis en place. Puis encore plus important, c'est que ces arbitres-là qu'on a avec nous, puis, tu sais, quand je dis avec nous, c'est que c'est pendant quelques événements pendant la saison. Tu sais, au maximum, un arbitre va arbitrer 10 jours là, à l'intérieur, tu sais, de phase de compétition avec nous. Puis ça, c'est s'il participe à plusieurs événements. Mais le reste du temps, cet arbitre-là, il est dans son association, dans sa région. Et ce qu'on leur dit, puis ce qu'on impose, en fait, mais c'est qu'ils redonnent ce que nous, on enseigne, mais c'est qu'ils soient eux-mêmes des leaders au niveau local, puis qu'ils te transmettent la bonne nouvelle. Là. On forme des apôtres, finalement, Simon.
Bon, ça y est, la secte est partie.
On est comme une secte finalement.
Ouais, voilà. C'est ça, c'est pas bon signe. Simon, j'ai une question pour toi. On parle d'éléments d'améliorer les joueurs ou les arbitres au niveau technique. Si on prend la position d'arbitre au marbre, c'est quoi les plus grosses lacunes que tu vois chez les jeunes? Puis c'est quoi l'élément technique que tous les arbitres ont? Parce que si je regarde un match du baseball majeur, là, c'est pas tous les arbitres qui ont le même positionnement au marbre. Il y en a qui sont un peu en ciseau, il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont face, il y en a qui sont de côté un peu. C'est quoi les éléments techniques qui est important pour un arbitre au marbre? Dire ça, là, ça, faut que tu ailles ça de base. Il faut que tu sois stable de telle façon pour être un bon arbitre et penser rentrer dans le PDA un moment donné et avoir des bonnes performances.
Ben, je te dirais, il y a vite comme ça, il y a trois choses que je vois. T'sais, la première des choses, c'est le timing. C'est d'avoir le bon timing. Quand je parle de timing, pour appeler une brise, appeler une balle, que ce soit pas trop rapide, pas trop se faire avoir. Là, mettons, c'est une balle courbe, par exemple, comme ça nous est tout déjà arrivé. Fait que, la première des choses, c'est vraiment le timing. La deuxième, c'est peu importe la position que tu as en arrière du marbre, t'sais, c'est d'être stable et ta tête bouge pas. Si ta tête bouge pas, tu as plus de chances, tu as des meilleures chances d'avoir le lancer. À chaque lancer, tu vas toujours avoir la même vision. Fait que ta zone de prise va être plus constante. Puis la dernière chose que moi que je vois, c'est le positionnement de la tête entre le receveur puis le frappeur pour être sûr que, dans le fond, tu vois l'ensemble de la zone de prise, que si le receveur voit une balle qui arrive à l'extérieur, ben, qu'il soit capable de suivre tout le long et qu'il ne la perde pas parce qu'il est trop collé sur le receveur, par exemple. Ouais. Je te dirais, c'est vraiment ces trois affaires-là, là, peu importe la position en arrière du marbre, tu sais, qui va jouer dans le fond sur la constance d'un arbitre.
Puis moi, j'ai toujours une question, puis je trouve ça bizarre quand je vois l'arbitre suivre le receveur en arrière du marbre. Puis là, je ne suis pas un spécialiste d'arbitre, puis on pourrait avoir la discussion, mais dans ma tête, si tu vas être constant dans ta zone de prise, il faut que tu sois positionné sensiblement au même endroit pour faire confiance que le lanceur va lancer dans la bonne direction. Parce que si tu te mets à bouger droite-gauche tout le temps, oui, tu as le marbre comme référence, mais je sais pas, je trouve que ça fait pas beaucoup de sens. Je suis dans l'erreur, Simon? Ou...
Ben, puis je vais laisser Jeff répondre après parce que des fois, ça peut varier. T'sais, le plus gros facteur, c'est je vais te dire, ça dépend beaucoup de la confiance que tu as envers le receveur.
Okay.
De facto, là, moi, je te dirais c'est ça parce que ma sécurité d'abord. Mais moi, en partant, moi, j'avais tendance à rester là. C'est pas par courage là, t'sais, j'avais tendance à rester là parce que justement t'as la même vision, puis t'sais, assurément plus le receveur s'en va vers l'intérieur, il va falloir que tu bouges un peu, plus il s'en va vers l'extérieur, ben, t'as une plus grande vision. Mais je sais qu'il y a des arbitres qui préfèrent suivre le receveur justement, puis t'sais, je pense que Jeff, tu peux sauter là-dessus là.
T'en penses quoi, Jeff?
Ben, tu sais, vers l'intérieur, en fait, on tombe dans la technique, mais ce qui est difficile pour un arbitre, bien souvent, c'est quand on a un frappeur qui est collé sur le marbre et que le receveur profite de la situation pour demander un pitch à l'intérieur, un pitch inside. Fait que là, toi, comme arbitre, t'essaies d'avoir une espèce de fenêtre pour être capable d'avoir une belle vision sur le marbre. Ta fenêtre vient totalement disparaître. Là, à ce moment-là, mais faut se relever un peu, avoir une vue un peu plus en plongée pour sauver les meubles. On est capable de s'en sortir comme ça. Fait qu'à l'intérieur, c'est une technique qui est enseignée à nos arbitres de plus haut niveau. C'est souvent quand le receveur va se tasser vers l'extérieur, que là, est-ce qu'on le suit ou on le suit pas? By the book, on devrait pas le suivre. Puis tu sais, jusqu'à un certain point, il faut pas le suivre. Mais quand le receveur s'en va un quart de mille à l'extérieur, puis qu'il dit à tout le monde dans le parc, le prochain lancer sera une balle, ben, on va y donner une balle, on va être d'accord avec lui, puis on va le suivre. C'est ça, c'est mon opinion bien personnelle. Là. Je veux pas engager là, les 1500 arbitres de baseball Québec avec mon opinion. Mais moi, écoute, si tu veux une balle, chef, là, m'a t'en donné une balle, ça va me faire bien plaisir. Là,
OK. J'ai une autre question par rapport à l'arbitre au marbre. Tu sais, on a deux réalités. Moi, j'ai la réalité d'entraîneur. Vous avez la réalité d'arbitre. Après un match, là, tu sais, on fait le post-mortem de tout ça, puis on fait surtout le post-mortem de nos frappeurs. Puis ce qui est le plus important, ce qui va sortir le plus souvent par rapport à la petite portion qui appartient à l'arbitre, c'est à quel point il a été constant dans la zone de prise. À quel point, quand vous supervisez un arbitre, ça, c'est important, versus autant que moi, je trouve que c'est hyper important qu'un arbitre soit constant, que tu donnes deux balles inside, deux balles outside de plus, ça ne me dérange pas. Que tu cadres la tête aux orteils, ça ne me dérange pas. Mais si tu cadres tout le temps ça, on va vivre avec. Trop souvent, là, j'ai l'impression que la strike zone, là, elle va suivre la respiration de l'arbitre. Elle va bouger up, bouger down, droite, gauche. Fait que pour moi, comme coach, puis surtout comme joueur, on veut de la constance. Est-ce qu'on est sur la même page ou pour vous, c'est pas un point qui est important dans pour les arbitres dans le 3, dans l'élite, dans tout ça, c'est pas un point majeur?
Ben, moi, je te dirais que oui, c'est un point majeur. Puis de la façon qu'on va l'aborder, c'est souvent il y a quelque chose en arrière. Tu sais, le pourquoi t'es constant, comme je disais tantôt, c'est parce que ta tête, elle bouge. Tu sais, par exemple, je vois un peu plus de technique, mais à chaque lancer, tu bouges ta tête, puis elle suit littéralement le lancer, que tu perds un peu la balle, tu perds un peu ta zone de prise. Fait que oui, c'est important. Au même titre qu'un frappeur, tu sais, il faut que la constance soit là. Mais tu sais, c'est de travailler qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Tu sais, quelle petite chose on peut corriger qui peut aider de ce côté-là pour la zone de prise. Puis là, Jeff, je sais que tu voulais dire quelque chose, là.
Pourquoi j'ai-tu levé la main ou tu me connais?
Mais non, écoute.
On t'a entendu respirer.
La lèvre en haut à gauche a bougé, là.
Je pense qu'on passe vraiment trop de temps ensemble, cher Simon.
Ouais, je pense que je vais demander le divorce dans pas long.
On travaille beaucoup ensemble, Simon et moi, puis on se connaît un peu trop à l'occasion. Ben, tu sais, là-dessus, c'est qu'effectivement, nous, on a un diagnostic à apporter, mais il faut également apporter le collectif, parce que je te dirais qu'à peu près n'importe qui est capable de dire à un arbitre, ta zone n'est pas constante. Là où un superviseur va faire la différence, là où un bon superviseur va s'impliquer, c'est quand on est capable de trouver la raison. Des fois, ça peut être, mettons, l'arbitre choke en cinquième manche. Ça va bien pendant quatre manches. Là, maintenant, on arrive en cinquième manche, c'est 3-3. Puis notre arbitre perd totalement sa concentration. Fait que là, nous, il faut qu'on trouve la raison pour laquelle ça se produit. C'est un peu comme t'as un rendez-vous chez le médecin. Le médecin, il dit, ouais, je constate que tu bois du pied gauche. Ouais, mais on fait quoi, doc? Ah, mais bonne chance, mon homme, corrige ça. Ça, arbitrer, c'est exactement la même chose. Là. C'est que nous, on, sans dire qu'on est des médecins de l'arbitrage, là, ça serait présomptueux, mais il faut qu'on apporte absolument des correctifs. Puis ça, on va le faire jusqu'à là, pas si longtemps, c'est qu'on essayait de mimer à l'arbitre ce qu'il faisait. Là, on a été capable, à un certain point, d'emmener la vidéo, de se cacher en arrière là, du dugout, essayer de prendre, ou du backstop, puis de prendre un vidéo pour lui montrer. Là, maintenant, avec une plus grande ouverture, autant dans le monde du baseball qu'au niveau des ligues, t'sais, on n'a pas peur en deux manches de dire, là, prochaine manche, corrige ça, s'il te plaît. C'est certain que si l'arbitre est complètement perdu dans son match puis qu'on voit qu'il est déconnecté parce que ça va trop vite, on va y laisser un break, on peut pas en ajouter. Mais quand tout va bien puis on voit qu'un détail technique peut faire la différence, on n'attendra pas à la fin de la game rendu dans la chambre pour lui dire. On va lui dire, c'est on the spot. Même que l'année passée à la classique Claude Raymond, on n'était pas certain, mais on a mis des oreillettes aux arbitres des buts.
Ouais, tu me parlais de ça, ouais.
Ça, ça a été formidable comme expérience, là.
Ouais, ça a fonctionné. Les arbitres, t'es pas trop nerveux avec ça?
Ben, les arbitres, je te dirais, étaient nerveux parce qu'il y avait JF dans l'oreille. Là. C'était plus cette nervosité-là qu'il y avait, là, de savoir quelle niaiserie qu'elle allait entendre dans l'oreillette. Mais pour bien, ça a super bien fonctionné. Puis tu sais, quoi de mieux qu'entre une demi-manche, après un jeu que t'as pas vu venir ou il s'est passé quelque chose d'étrange, ben, tu sais, d'avoir un peu de feedback puis de pouvoir le corriger le jeu d'après que d'attendre à la fin de la game.
Ah, c'est sûr. C'est sûr que sur le terrain, quand c'est des petites choses que tu peux changer, c'est hyper pertinent. Puis là, on a parlé de l'arbitre au marbre. J'aimerais ça qu'on parle, Simon, un peu de l'arbitre ses buts. Comment tu définis ça, toi, un bon arbitre sur les buts? Là? Qu'est-ce qui fait la différence entre le meilleur puis un gars qui est juste bon?
Écoute, moi, il y a quelque chose, puis tu sais, JF le sait, là, moi, quand je supervise, il y a quelque chose qui est dans ma tête, sur lequel je focus beaucoup, c'est la lecture du jeu.
L'anticipation.
Puis, tu sais, oui, tu le vois souvent sur d'anciens joueurs de baseball. Puis moi, c'est ce qui, tu sais, que tu bouges le pied gauche ou le pied droit un avant l'autre, tu sais, ça se corrige. La lecture du jeu, puis tu le sais, Max, même pour un joueur, tu sais, c'est long à apprendre. Fait que moi, c'est une des choses les plus importantes, tu sais. Puis d'être capable, avec cette lecture-là, des fois, de dépêtrer de situations que la balle va d'un bord puis de l'autre, ben, tu sais, ce qui, pour moi, tu vois un arbitre qui a un step de plus, là. C'est vraiment ça.
Ouais, on le voit de temps en temps. Là, comme coach, tu fais un appel au troisième but parce que tu sais que les deux ne l'ont pas vu. Il n'y a personne qui a vu le gars s'il a touché au 3 ou pas. Parce que les deux étaient dos au jeu, on ne regardait pas à bonne place. Là. Ça, c'est un manque d'anticipation. Là. Ça, c'est un bon point. JF, tu rajouter quelque chose sur l'arbitre de ses buts?
Ben oui, mais on vient de se faire caler, Simon, là, sur Facebook avec Jimmy Trahan, qui était justement avec nous à Saint-Jean Classique. Puis ce qu'on n'a pas dit aux gens, c'est que nous, on est arrivé avec nos walkie-talkies flambant neufs, on connaît ça, on est sûr de notre shot, on se trouve fiers, jusqu'à 9h01 le matin. Quand
oui,
on s'est
rendu compte,
on a interféré avec les gars de la ville. Fait que t'as nos arbitres, c'est les buts qui se font caler des voyages de 0-3 quarts. Il a fallu improviser puis changer de canal assez vite, là. Fait que tu sais, il n'y a
ah
pas
ouais.
juste...
Ouais, je l'avais oublié celle-là, mais c'est vrai.
Ah non, ça était bonne. Puis, mais tu sais, comme arbitre, ses buts, c'est clairement de la concentration. Puis des fois, tu vois des arbitres qui sont excellents au marbre. Ils arrivent sur les buts. Ton volume de décision à rendre est moins élevé. Fait que là, c'est qu'ils partent un peu dans la lune, un peu partout. Ça c'est quelque chose qui va être une difficulté pour certains officiels. Puis, tu sais, des fois, ça va être d'être un bon backup à l'occasion, d'être capable de prendre la chaleur. Si c'est un arbitre au marbre qui l'échappe, puis s'il y a quelque chose qui est difficile quand tu arbitres sur les buts, c'est de voir ton partenaire au marbre qui connaît une game moyenne, puis toi, t'es la personne la plus impuissante dans le parc parce que c'est ton partner, tu veux le backer, t'aimerais ça que ça allait mieux. Sauf que malheureusement, les circonstances te permettent pas réellement d'intervenir. Fait que d'être un bon partenaire, d'être un bon deuxième, va être également une bonne qualité pour un arbitre début. Puis, tu sais, on alterne sans cesse. C'est pas tard que quelqu'un qui connaît un peu moins l'arbitrage va venir nous voir puis nous demander, toi, t'es-tu un arbitre de marbre ou un arbitre de but? Puis là, faut expliquer qu'on alterne. Mais au final, dans le monde de l'arbitrage, ton pain puis ton beurre, c'est ta job au marbre. Fait que si malheureusement, comme moi, t'es un peu meilleur sur les buts qu'au marbre, ben c'est quelque chose qui m'a limité un peu dans ma carrière. Là, j'ai quand même fait mon chemin dans l'arbitrage, là n'est pas la question. Mais si t'as le choix entre être bon ses buts ou être bon au marbre, choisis la plate.
Ouais, mais c'est parce que c'est ton appel de balle 1 qui était pas bon, GF.
Ah, mais c'est unique, je me suis toujours distingué par.
Ça partait mal, c'est ça le problème.
Non, mais c'est vrai qu'il est unique, là, mais je pourrais je prends en compte en long et en large, mais moi, il y a une autre chose que, avec ce que Jeff disait, avec la COVID les deux dernières années, t'sais, l'arbitre qui est en arrière du monticule, ça n'a pas été facile. Mais ce que ça. Si je peux trouver un côté positif, c'est que oui, on avait un système d'arbitrage qu'on a monté sur le tas pour les arbitres en fonction de l'arbitre en arrière du monticule, mais ça a permis deux choses aux arbitres. De mieux communiquer. Parce que là, c'est pas quelque chose qui est seulement qui est inné. Fait que c'est vraiment de mieux communiquer. Puis comme je répétais, la lecture du jeu. Parce que là, il y a beaucoup de situations, puis il fallait que tu réagisses au meilleur de ton instinct, puis en communiquant comme il faut avec ton partenaire. Fait que s'il y a des choses peut-être positives, là, on va le dire comme ça, entre guillemets, à sortir, c'est un peu ces deux aspects-là aussi. Là.
Ouais, la seule chose que j'ai trouvé négatif d'être en arrière du monticule, c'était même pas la zone de prise. J'ai trouvé hyper constant puis super bon. C'était juste la balle frappée sur la ligne du troisième but que vous aviez aucune chance. Parce que là, on flippait un 25 cents, mais autrement, vous êtes dans le milieu de l'action tout le temps. Vous appelez une balle, le lanceur voulait une prise. Vous avez une discussion directe comme vous avez avec le catcher. Moi, j'ai trouvé ça. Je sais pas comment du côté de l'arbitrage ça a été perçu, mais moi, j'ai pas eu tant de problèmes que ça. C'est sûr que pour un puriste comme moi, je préfère avoir l'arbitre en arrière du marbre, travailler avec mon catcher, on travaille ce genre de choses-là. Puis je suis sûr que dans l'arbitrage, c'est hyper important d'avoir une bonne relation avec le receveur parce que, un, c'est lui qui te protège. Puis deux, c'est ta courroie de transmission avec l'entraîneur si ça chauffe un peu. Mais je sais pas comment vous avez trouvé ça, vous autres, en arrière du marbre versus en arrière du monticule versus en arrière du marbre. Simon? Ouais.
Ben, tu sais, moi, je te dirais, tu sais, j'ai pas arbitré l'année passée, mais tu sais, je joue comme catcher, tu sais, dans ma ligue senior 2B. Puis moi, je trouvais ça difficile de pas avoir le, tu sais, de pas pouvoir jaser avec l'arbitre en arrière.
Ouais.
Tu sais, on va le dire, tu sais, les lanceurs, souvent, je vais dire, c'est des bébites un peu différentes, tu sais, sont dans leur bulle, puis ils ont pas le goût de jaser nécessairement avec l'arbitre. Puis moi, c'est les lanceurs qui travaillaient, souvent, c'était ça. C'était, tu sais, je veux pas jaser avec, c'est supposé être toi qui jase avec. Fait que, comme receveur, tu sais, oui, c'est plus difficile parce que, bon, tu sais, t'es-tu un peu à l'extérieur, tu manques ce pouls-là. Fait que, comme arbitre, je vais le laisser à GF parce que, tu sais, j'ai pas fait de game en arrière du monticule l'année passée.
Ben, GF, il y a eu la crème, mais quoi, il a rentré l'ABC, c'était facile, ça.
Ouais, puis c'est moi. Puis moi, Simon, tu me connais, je me suis pas cassé la tête, mais bien que les check swings, je demandais carrément à Maxime avec l'ABC.
Ouais, c'est ça. J'ai pas été payé pour ça, d'ailleurs, GF.
Ah, puis tu sais, c'est pas pire parce que là, il pouvait pas chialer là-dessus. Là. C'est lui qui donnait le call. Fait que,
Et voilà.
Il y avait toujours du bon bord du mien.
Moi, il coachait deux équipes en même temps. Ça allait bien. en arrière du monticule, effectivement, là, les lanceurs, tu as deux types de lanceurs. Puis, dans un contexte de compétition, quand le lanceur, ça va bien, tu vois que c'est un individu qui est détendu. Tu peux avoir une discussion avec lui un peu comme tu vas avoir avec un receveur, mais c'est une minorité de lanceurs. Puis souvent, puis je pense même que du côté des coachs, des fois, en tout cas, Béru, lui, avec l'ABC, il observait ça. Quand il voyait qu'un lanceur était tellement confortable qu'il osait discuter avec moi un peu entre les lancers, là, un mot ou deux, il s'est dit, OK, lui, il est dans sa zone, puis c'est sharp, versus un un lanceur un peu plus nerveux, puis on comprend là, qu'il y a de la pression à lancer, puis il faut que tu sois concentré, qu'il parle pas du tout. T'sais, ça peut varier énormément selon la personnalité de l'individu. Mais être en arrière du marbre, mais ça permet un meilleur contrôle, puis aussi ridicule que ça puisse paraître, c'est que tu as le jeu devant toi. Là, tu as deux arbitres qui regardent dans la même direction. Il se passe un paquet d'affaires en arrière de toi sur lequel tu n'as pas le contrôle, alors que juste d'avoir un arbitre qui est en arrière du marbre, géographiquement en arrière du marbre, mais t'es quand même à proximité des deux bancs. Alors, s'il y a une intervention à faire, c'est plus facile de la faire à partir de cet endroit-là. Puis, tu sais, moi, je suis un des chanceux qui a eu la chance de retourner en arrière du marbre pour un seul match, là, au début du mois d'octobre. Puis, tu sais, pour les arbitres qui sont à l'écoute puis qui sont inquiets, je vous dirais, inquiétez-vous juste pour les premiers lancers de la game. Moi, de mon côté, la stratégie que j'ai fait, c'est que je suis allé dans l'enclos, j'ai demandé à une des deux équipes, mais à l'ABC, en fait, ce que je peux aller en arrière de votre lanceur, prendre quelques lancers d'exercice avant le début de la game, puis ça n'a pas été long, là, 10 lancers, c'était revenu, les 5 lancers de réchauffement avant le début de la game, puis tout était revenu, tout allait bien, là, puis tu sais, même que mon partner avec moi à ce moment-là, c'est un jeune arbitre, mais c'est Rémi Hamelin, là, qui avait 17 ans, lui, le plus haut qu'il avait fait dans la vie, c'était du Bantam 2A à l'âge de 15 ans, et lui, ça en est un bon, là. Ça en est un qui éventuellement pourrait, a fait junior élite même à 17 ans l'année passée, là. T'sais, il est à un autre niveau. Mais Rémi avait jamais fait plus haut que du Bantam 2A. Je l'amène faire de l'ABC de fin de saison. Puis, tu sais, Dieu sait qu'un niveau comme l'ABC, avec des athlètes hyper performants de 15, 16, 17 ans, la marge de talent entre le début mai et le mois d'octobre, c'est énorme comment ces joueurs-là s'améliorent. Fait que tu arrives en octobre, c'est du calibre qui, baseball pour baseball, est peut-être plus fort que du junior élite de milieu de saison. Et là, on arrive. Ben, je te garde tes yeux, Maxime. Pis moi.
Ah, tu peux en mettre. Ouais, c'est du bon calibre.
J'avais mis un peut-être pour être gentil, mais je vois que c'était le mot de trop. Puis écoute, fait que j'ai fait passer un kid de 17 ans du Bantam 2A à du calibre plus fort que le junior élite. Il est sorti de là comme un chef, là. Mais excessivement fort, là. Même que le lendemain, on avait un deuxième match, puis je disais, le kid, on retourne à la plate, là. Je pense que t'es prêt. Fait que pour nos arbitres qui nous écoutent, qui après 2 ans, moi, ma seule recommandation, c'est de checker votre stock avant si vous n'avez pas pris 15 livres. Là. C'est pour le reste, là, ça va revenir, là, faites-vous-en pas. Là.
Ouais, moi, je te dirais honnêtement, là, pour un arbitre là, qui veut savoir s'il peut aller dans un championnat canadien d'importance, là, arbitrer un inter-squad de l'ABC en septembre et octobre, là, pour un arbitre, puis tu veux le superviser, je pense que ça peut avoir mieux. La seule chose qu'il n'y aura pas, là, c'est la gestion de banc et gestion des coachs parce qu'on ne sortira pas sur lui. On ne sortira pas. Puis il va juste avoir à se concentrer sur la game. Fait que si au niveau de la game, tu veux savoir s'il est prêt, là, pour moi, je pense qu'un inter-squad de l'ABC en septembre-octobre, c'est le meilleur moment pour former un arbitre en situation de match. En gestion de match où ce que les coachs peuvent sortir et discuter, ça n'arrivera pas. Fait que ça ne vaut pas la peine. Mais pour juste la game de baseball, moi, je pense que c'est le meilleur moment. Le temps file, les boys, il reste 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut attendre du PDA? Y a-t-il des messages que vous voulez lancer? Y a-t-il des choses qui seraient importantes d'être dites, Simon?
On va avoir je peux le dire comme ça, on va avoir une grosse année cette année. On va avoir énormément de baseball, énormément de volume à donner à nos arbitres. Puis, ça va vraiment être intéressant pour le développement. Là. Puis, l'arrivée du 15, du 17-3 va être intéressant aussi pour nos arbitres. Fait que ça va. Il va y avoir du baseball cet été. Je le dire comme ça. Là, je regardais notre horaire, le GF. Là, puis, écoute, notre mois de juillet, je pense qu'on a 2 jours off à peu près. Là. On va en avoir du pain sur la planche pour le développement là, cet été.
Ça va être un bel été. GF.
C'est sûr que notre équipe d'arbitres pour la saison 2022 n'est pas encore tout à fait complète. Sauf que, tu sais, la saison a commencé, puis on a déjà été chercher à gauche et à droite d'excellents candidats avec qui on est super content de travailler. Mais, tu sais, déjà pour 2023, puis, tu sais, pour les gestionnaires du baseball associatif puis régional qui nous écoutent en ce moment, tu sais, si vous avez un candidat arbitre, peu importe son âge, là, dès qu'une saison en arrière de la cravate, pour les plus jeunes, les moins jeunes, qui mangent de l'arbitrage, mais pensez à nous l'année prochaine, là, quelque part au mois de décembre ou au mois de janvier, on est capable de vous offrir quelque chose de sharp là, sur 8-9 mois par année. Puis nous autres, on parle que d'arbitrage, que de réglementation, puis on a bien du fun. Fait que ça, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On est bien ouvert à élargir notre programme pour combler des besoins, puis par la suite rendre l'arbitrage meilleur au Québec en général.
Excellent. Est-ce que le PDA a une page Facebook, Twitter, email, site internet, quelque chose? Vous avez là-dessus?
Notre groupe Facebook est fermé pour l'instant. Okay. C'est via la page d'Arbitre Baseball Québec que nos communications at large vont passer.
Parfait, excellent. Merci Simon, merci Jeff pour la belle entrevue aujourd'hui. Ça a été bien plaisant. Pour ma part, je souhaite une bonne journée, une bonne semaine, puis on se revoit mercredi avec Jeff et moi-même. Bonne semaine.
Membre de la famille H2O Web Media.